Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir loben dich, Herr, für deine wunderbare Person und für dein wunderbares Werk, Herr. Oh, hey Jesus, Herr, wir möchten erkennen, was die Hoffnung deiner Berufung ist, Herr. Was der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in allen Heiligen ist, Herr. Herr Jesus, wir bekennen dir auch heute Morgen unsere Blindheit, Herr. Öffne unsere Augen, Herr. Wir sehen die Schönheit des Herrn in deinem Tempel, Herr. Amen. Lob den Herrn. Lass uns gemeinsam diese Verse weiterlesen in Epheser 2. Fangen nochmal an in Vers 10 und lesen bis Vers 13, alle gemeinsam. Lob den Herrn, sein Werk sind wir. Amen. Denn sein Werk sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Deshalb hängt daran, dass wir als Nationen im Vergleich gute Schritte lernen von der sogenannten Bescheidung, die in der Hand von Fleisch geschieht, dass wir zu jener Zeit von Christus getrennt waren, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und fremd in Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe.
Ja, ich habe jetzt, jetzt habe ich irgendwie muted hier. Désolé, j'étais muté, c'était, donc du coup j'ai lu pour rien. Ephésiens 2, 10 à 13. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Autrefois loin, maintenant proche. Rapprochez. Amen. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. En allemand, c'est dans le sang de Christ. In dem Blut. Sans Dieu dans le monde. C'est pourquoi, souvenez-vous de ça. Paul, il a vraiment un fardeau dans cette lettre, cette vision. De peindre cette vision devant nos yeux et de qu'on puisse se souvenir de ce qu'on était autrefois. Le chapitre commence, vous étiez morts par vos offenses. On avait hier. On avait une impression forte de comment cette vie sans Dieu, elle est sans espérance. Comment c'était avant notre renaissance, mais aussi comment c'est quand on reste dans notre moi. Et c'est un fardeau pour moi ce matin, comme Paul, de mettre le doigt là-dessus. C'est aussi, dans la préparation de la conférence, c'était un fardeau pour nous de ne pas seulement, de pas regarder seulement au temps d'avant qu'on était croyant, mais on doit vraiment avoir une crainte de cette vie sans Dieu. Seigneur Jésus. Paul a écrit dans le verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nom, nous visions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En tant que non-chrétien, un homme ne peut rien faire. Il a seulement cette nature, il peut seulement vivre comme ça. Mais nous, les chrétiens, nous sommes pas libres de ça. Notre chair reste la chair. Et nous avons ce combat quotidien. Est-ce que je vis loin de Dieu ou est-ce que je vis dans l'unité avec Dieu? Et nous connaissons ça, on glisse toujours dans notre moi, toujours encore, on retombe dans notre moi, dans nos pensées, dans la volonté de la chair. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est la volonté de la chair, la volonté des pensées. Et Paul le montre clairement ici, on était sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 12. Cette petite partie de phrase, ça a touché mon cœur. Sans espérance. Je peux être chrétien et croyant, je peux aller à la réunion quotidiennement, avoir grandi dans l'église, mais je peux avoir une vie sans espérance, sans Dieu. On est entouré de choses sans espérance. Notre travail, nos voisins, tout est sans espérance. Paul dit étranger aux alliances de la promesse. Il utilise cette image ici, cette image entre juifs et grecs, et dit, et quand vous étiez avant, vous étiez encore étranger à la promesse. Deux chapitres plus tard, il utilise encore ce mot dans le chapitre 4, verset 18. L'intelligence obscurcie, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers, ce mot étranger à la vie de Dieu. C'était le but de Satan, de rendre étrangers les hommes à Dieu. Il a dit, vous n'avez plus besoin de Dieu, vous pouvez décider, être indépendant, décider vous-même. Étranger. Et j'aimerais m'examiner moi-même. Comment est-ce que je connais ce Dieu? Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître pleinement, connaître le souhait de ton cœur. Et j'aimerais laisser de côté ma vie sans Dieu, ma vie sans espérance. J'ai pas envie d'avoir quelque chose à voir avec ça. Les gens dans le monde, les incroyants, ils peuvent seulement, ils ne peuvent seulement espérer de 2 mètres. Ils peuvent seulement espérer que l'année prochaine, ça ira mieux. En quelques jours, l'année va se terminer. Ah, l'année prochaine, ça va être... On espère que ce sera mieux. Mais à quoi de quoi espèrent les hommes dans ce temps? Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous, on espère? Est-ce qu'on a cette pensée en nous? On espère que ce sera mieux? Parce qu'on a peut-être cette influence de l'extérieur. Dans le chapitre 3, Paul y décrit cela. Il fait référence aux Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent
aux œuvres de la loi sont sous la malédiction.
On peut aussi vivre sous la malédiction. Bien sûr, on a été déplacé, mais si on vit notre Dieu sans si on vit notre vie sans Dieu, on est sous la malédiction. Il est écrit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est dans le livre de la loi et le ne met pas en pratique. Les Galates ont essayé de faire des choses pour Dieu. Ils ont commencé en esprit. Et Paul les a mis en garde de ne pas faire, de ne pas achever dans la chair. Je reviens à Éphésiens 2, à la fin des versets. Vous qui étiez loin, vous qui jadis étiez éloignés, verset 13. Verset 12, sans espérance et sans Dieu, verset 12 à la fin, et après 13, qui étaient jadis éloignés. Qu'est-ce qui nous éloigne du Seigneur? J'ai envie de parler de ceux qui nous éloignent du Seigneur. Qu'est-ce qui nous éloigne de notre Dieu? Allons dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 59. Verset 2.
Mais ce sont vos crimes qui mettent séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Le prophète Ésaïe dit ça à des incroyants, il dit ça au peuple de Dieu. Une séparation entre vous et votre Dieu, entre nous et notre Dieu. Et tout ce qu'on a entendu déjà dans les trois dernières réunions, première réunion, il ne s'agit pas de ce qu'on dise. Ah, je ne suis pas tombé dans les drogues, comme on a vu hier, comme par exemple. Ça ne me concerne pas. Je suis sauvé. Nous avons besoin d'une conscience quand on pêche, une conscience saine quand on pêche. Parce que quand on pêche, on est vraiment dans cette situation, loin de sa face. On pense qu'on est tellement près, mais le prophète dit une séparation. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Peut-être que je prie des fois pour quelque chose, je prie encore et il n'entend pas. C'est bien des fois de checker, de tester. Oh Seigneur, pourquoi, enfin, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui fait que tu n'écoutes pas, que tu n'entends pas? Dans Ésaïe 43, verset 24, le Seigneur se plaint encore du péché. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ésaïe 43, 24. Oui. De cette manière, on peut fatiguer le Seigneur, tourmenter le Seigneur avec nos péchés. Et une tactique de l'ennemi, c'est de masquer, de relativiser. Oh, c'est donc pas si grave. Les autres le font aussi. Et dans le chapitre qu'on a lu au début, c'est aussi, il s'agit aussi de la volonté de la chair, de oh, ce que je pense aussi à propos de frères et sœurs, par exemple. Oh, très vite, j'ai une pensée qui vient en moi. Je ne la dis pas, mais peut-être j'écris à quelqu'un. C'est du péché. C'est la volonté de la chair. Et ça nous sépare de Dieu. Mais le Seigneur a un chemin. Évite de me dire trop les mots parce que ça me gêne.
Ça te gêne que je
que si tu vois que je galère vraiment là, que je fais comme ça. J'aimerais, pour les prochaines minutes, j'aimerais regarder avec vous ce que ça a coûté au Seigneur. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Je ne sais pas comment vous allez vous comporter avec le mot, le sang de Jésus. Qu'est-ce que vous avez comme impression que comme impression ça vous donne que quand on dit le Seigneur a souffert et on lit ici. Et on lit ici dans Éphésiens 2, rapproché par le sang de Christ. Et je me suis aussi posé la question, combien est-ce que moi ça me concerne? Toutes ces choses que j'ai apprises, tous ces enseignements que j'ai entendus dans ma jeunesse, que j'avais déjà, comme enfant, quand j'avais déjà appris à prier, merci Seigneur pour ton sang, mais le goût est peut-être devenu fade, et j'aimerais ce matin prendre quelques minutes pour que nous regardions ce que le Seigneur a vécu. Nous restons dans Ésaïe. Et nous allons dans le chapitre 53, qui décrit la vie du Seigneur jusqu'à la croix, sa vie humaine, ce que aussi nous vivons chaque jour, qu'est-ce que le Seigneur a vécu. Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Ah, aussi le verset 2, pardon. Au milieu du verset 2, il n'avait ni beauté, verset 2 milieu, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. À l'époque, c'était pas un homme de stature, le Seigneur. Il a été méprisé. Et il s'est laissé mépriser. Et il avait un but, c'était que par son sang, il nous rapproche. Et c'est pour ça qu'il s'est laissé mépriser. Peut-être quelqu'un d'entre nous a déjà vécu du mépris. Peut-être à l'école, ça fait mal. C'est ce qui est écrit, méprisé et abandonné des hommes. Tu marches et quelqu'un vient à ta rencontre et ne veut même pas te rencontrer. Le Seigneur a vécu ça 3 ans. Lisez le Nouveau Testament, les évangiles, où le Seigneur Quand le Seigneur est venu, ils se sont cachés et ils ont écouté. Les pharisiens sont cachés, ils ont juste écouté où ils pouvaient Ils étaient à l'affût, voilà. Ils étaient à l'affût et après ils ont guetté s'ils pouvaient l'attraper pour le condamner. Ils ont guetté tout ce qu'il disait. Et le Seigneur a fait tout ça, il a souffert parce qu'il voulait nous racheter un jour. Ça, c'était notre Seigneur. Il était habitué à la souffrance. Merci. Peut-être les écoliers, ils souffrent parce qu'ils ont un examen, mais le Seigneur, il était habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et dans les évangiles, il décrit aussi un peu ce qu'il a souffert. Matthieu 26. J'aimerais donner une impression avec la parole de ce que le Seigneur a souffert afin de nous rapprocher. Matthieu 26. Verset 67, c'était à la fin, il l'avait déjà attrapé. Judas l'avait déjà trahi. Avec l'histoire du bisou ou du baiser, ou pour montrer aux soldats qui était celui qu'il devait attraper. Et maintenant, dans le verset 67, il est déjà devant le Sanhédrin.
Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétie ».
Est-ce que tu as déjà été... est-ce qu'on t'a déjà craché au visage? Moi, pas. Le Seigneur a souffert ça pour nous rapprocher de lui. Et tout ça, c'est dans cette petite phrase qu'on voit dans Éphésiens. Rapproché par le sang de Christ. Un chapitre plus tard, c'est encore plus dur. Matthieu 27, verset 26.
Alors Pilate relâcha Barabbas. Vous connaissez Barabbas. Il allait de laisser Quelqu'un qui avait fait le meurtrier, et le peuple a dit, après avoir fait battre de même Jésus, il le livra pour être crucifié.
Qui a déjà lu ce verset? Bon, levez la main. Ouais, on le connaît tous. Qui de vous sait ce que veut dire un mot que je ne comprends pas? Je pense que c'est la verge. C'est quelque chose avec plusieurs cordes et au bout, il y a des os pointus. C'est un fouet, en fait. Et on lit là, avoir fait battre de vers Jésus. Ce que notre Seigneur a souffert dans la pleine conscience qu'il veut nous rapprocher de Dieu. Il veut nous racheter. Il a souffert ça afin qu'on puisse être rapproché de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Ils ont aussi fait cette couronne d'épines. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, même plantée dans la tête, afin de se moquer de lui. Ouais, on peut pas dire autrement. C'était vraiment de la moquerie. Aujourd'hui, c'est directement une... Ouais, le Seigneur a vraiment vécu cela vraiment avec conscience qu'il veut racheter tous les hommes et rapprocher les hommes dans son œuvre. Il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est dans Philippiens, ça. Et cette mort n'est pas simplement une mort anodine, je pense. Il n'est pas seulement mort à la place de il est pas, c'est pas une mort anonyme, ça a vraiment coûté au Seigneur beaucoup parce qu'il nous a aimés. Excusez-moi, j'ai pas compris là ce qu'il dit. Parce qu'il avait, en vision, il avait ça devant les yeux, qu'il voulait avoir son Église. Dans Luc 22. On voit une situation aussi avant la mort de Jésus. Là, il est avec ses apôtres et il introduit le repas du Seigneur. Il prend le pain et prend la coupe. Ce soir, on a ici, à Stuttgart, l'occasion merveilleuse de nous réjouir de cela, de fêter cela. Et il dit, il n'a pas dit le verset, mais cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Dans mon sang, c'est le verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. On sait que de l'eau et du sang sont sortis de Dieu. C'était pas seulement du sang, mais c'était beaucoup de sang. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et la nouvelle alliance, on sait dans Hébreu, que ça veut dire, vous me connaîtrez tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est merveilleux. Oh, Jésus, Seigneur Jésus. Et quand nous regardons ce sang et les versets du Nouveau Testament, quand on regarde les versets du Nouveau Testament, qu'est-ce qui est inclus dans ce sang, dans cette rédemption de laquelle Paul parle par exemple dans Éphésiens 1, eh ben c'est vraiment quelque chose de particulier. Il dit au verset 7 du chapitre 1, Éphésiens 1, verset 7, dans lequel nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et j'ai écrit quelques points ici. C'est le point C. De quoi le Seigneur nous a rachetés par son précieux sang, de tout ce qui nous éloigne de Dieu, des péchés. Et le sang nous a rachetés de ça. Il nous a rachetés. Louez le Seigneur. Dans Colossiens 1, il le dit aussi. Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il de son côté, il dit, j'aimerais te pardonner. C'est égal où tu étais avant la conférence, ou bien où tu étais cette année dernière. J'aimerais te pardonner. Et c'est pour ça que j'ai répandu mon sang. Et j'ai aussi donné mon sang afin que tu ne vives plus dans ce monde comme les gens autour de toi. On peut lire ce verset ensemble, 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Et j'aimerais demander aux frères et sœurs à Karlsruhe qui sont ensemble de lire ce verset avec plein de foi. 1 Pierre 1, 18 et 19.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.
1 Pierre 1, 18 et 19. Ils n'ont rien entendu dans la salle, mais nous, on l'a entendu dans le casque. Bon, c'est dur. Ça, c'est dur, mais ça va, ou je suis galère un peu, mais ça va. Ouais, ça va.
C'est bon, c'est bon. Et c'est très agréable d'entendre.
Ok. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, ce que la société nous a donné. Là-dedans, on n'a même pas besoin de marcher. Parce que son sang a été répandu pour ça. Pour ça, il a souffert afin qu'on puisse, que l'on puisse être racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de notre père. C'est merveilleux. C'est une délivrance. Je ne dois plus marcher en moi-même, dans moi-même. Je ne dois plus réagir comme mon collègue.
S'énerver.
Exposer les autres. Je ne dois plus réagir comme ça. Et ça se passe vraiment rapidement. Cette semaine encore, avant dernier jour de travail, j'ai eu une situation où j'ai réagi vraiment comme mon collègue a réagi. J'ai tiré un coup. Et après cette situation, j'ai remarqué ça va pas. C'est pas mon Seigneur. Mon Seigneur, il m'a racheté de cette vaine manière de vivre. J'ai dû me repentir de ça. J'ai dû dire, Seigneur, je suis désolé. Oh, Seigneur Jésus. Mais aussi des œuvres mortes dans Hébreux. Le Seigneur nous a lavé des œuvres mortes. Que sont les œuvres mortes? Ce sont des œuvres qui ne sont pas comme dans le verset 10 d'Éphésiens 2. C'est pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais c'est quelque chose que je fais de ma propre force. Ça, c'est une œuvre morte. Ce qui sort de ma chair est de toute façon mort. Et ça peut vraiment s'entendre bien dans le sens où ça peut vraiment être quelque chose de bien, entre guillemets, mais sans le Seigneur, c'est une œuvre morte. Et pour ça, le Seigneur a aussi donné, versé son sang pour nous laver, pour nous purifier. Et je reviens à Galates 3, comme on a eu avant sur la malédiction, mais dans le verset 13 de Colossiens 3, le Seigneur Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, louez le Seigneur. Toute loi, pas seulement ces Galates qui voulaient cette loi de Moïse, qui voulaient revenir à la loi de Moïse, pas seulement eux, ou bien les pharisiens qui pensaient au sabbat et tout ça. Je ne suis pas, j'ai pas grandi en tant que juif, mais combien de lois je me fais à moi-même? Combien de paroles je transforme en loi pour moi? Mais aussi de ça, le Seigneur nous a libérés. Et pour ça, son sang a été répandu. Louez le Seigneur. Et j'aimerais revenir à Éphésiens 2. Il y a encore cette séparation que Paul décrit ici. Pas seulement séparé de Dieu, mais aussi des hommes. Ouais, c'est de la. On a été appelé incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. On voit ça aussi dans les Actes, que c'était encore un combat entre les chrétiens. Certains ont dit nous avons le Seigneur pour nous, mais pas les païens. Vous connaissez ces combats que Paul avait. Et comment est-ce que c'est aujourd'hui? C'est très, très, très vite on juge celui-ci pas, à partir de critères humains. Et le Seigneur nous a aussi libérés de ça. C'est le verset 12.
Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Des fois, on peut penser, tes lunettes, j'aime pas tes lunettes. Et on juge rapidement et on trouve des arguments. Et on voit ce que le Seigneur a souffert, et moi, on a vu ce que le Seigneur a souffert, et moi, je me sépare de toi parce que j'aime pas tes lunettes ou ta façon de prier. Est-ce que c'est pas une honte pour le Seigneur, ça? Mets-toi à sa place. Et regardons aux dernières semaines de sa vie. Regardons aux dernières semaines de la vie du Seigneur et comparons ça à moi qui dis j'aime pas tes lunettes ou bien j'ai quelque chose contre toi parce que il dit encore quelque chose dans la réunion. Ou bien quoi que ce soit. Ça va tellement vite. Mais pour ça, le Seigneur a aussi une solution. Rapproché par le sang de Christ. Et en tant que... Et j'ai encore mis ce verset de Actes 28 qu'il a... qu'il a aussi racheté l'Église par son sang. Prenez donc acte 20, 28.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous avez établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang.
On va voir ça encore ce soir et demain. L'Église à votre endroit, le Seigneur l'a acquise par son propre sang à Berlin. Prenez donc garde, c'est son œuvre. Ne juge pas trop vite, les frères et sœurs, parce que quelqu'un a répandu son sang afin d'acquérir l'Église. Lui, le rédempteur du corps, celui qui a racheté le corps, pas seulement nous en tant que frères et sœurs en particulier, mais le corps tout entier, il l'a racheté. Il a racheté l'Église, son Église, par sa mort à la croix, il l'a racheté. Du côté du Seigneur, tout est accompli. Vous connaissez cette phrase. Juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Du côté du Seigneur, c'est clair. Nous sommes rapprochés par le sang de Christ. Amen. Louez le Seigneur. Et c'est ce que je souhaite aussi ce soir, que nous participions à la table plein de louanges. C'est égal comme on sent. Si on est en ligne, si on est en ligne ou en présentiel, pendant la table, ne soyez pas timides de vraiment louer à haute voix, très fort, le Seigneur pour cette œuvre dans la prière, dans les chants, de remercier le Seigneur pour son œuvre merveilleuse.
C'est cette reconnaissance envers tout ce que le Seigneur a accompli qui fait qu'on puisse louer le Seigneur à la table.
C'est vraiment la réunion où le Seigneur mérite vraiment d'être loué, d'être adoré pour son œuvre, pour ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Et ça c'est un côté. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre côté? Bien sûr, le Seigneur doit nous ouvrir les yeux pour ce qu'il a fait, c'est la première chose. Et après, c'est très pratique dans notre quotidien. Des fois dans la réunion. Hébreux 10, verset 19.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire.
Du côté du Seigneur, tout est clair. Au travers du sang, on a libre accès dans le sanctuaire. Il a aussi parlé de cette assurance. Donc, vas-y, rentre par le sang. Lisons le psaume 32. Psaume 32, versets 3 à 5. Psaume 32, 3 à 5. C'est que quelqu'un a dit cela, des milliers d'années avant que le Seigneur a répandu son sang. Psaume 32, versets 3 à 5.
Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Tu as effacé la peine de mon péché. Encore une fois, le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché.
Amen. Oui, Seigneur, c'est vraiment précieux. Une telle attitude que David nous montre ici. Et il décrit ce que nous aussi nous vivons certaines fois. Quand, verset 3, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Frère et sœur, combien de fois la conscience réagit et nous on met ça de côté, on dit ah c'est pas trop grave, je dors une fois dessus et demain c'est mieux, et le lendemain est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment bon, ou est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que l'esprit nous montre qu'il y a encore quelque chose. J'essaie de me défendre ensuite. Ah, c'était lui d'abord, c'est lui qui doit venir d'abord me demander pardon. Il y a quelque chose en moi qui me consume, qui me rend faible. On a vu dans Ésaïe, Dieu se retire. On a vu ce verset dans Ésaïe 59 que le Seigneur nous cache sa face parce qu'il y a du péché. Et là, David dit, ta main, car nuit et jour, ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, nos péchés, notre vaine manière de vivre, c'est des fois des petites choses que j'ai faites dans ce monde. Peut-être une chose qui nous bouffe le temps, une activité qui nous bouffe le temps. Peut-être notre petit appareil. Et on s'est peut-être attaré à notre petit appareil et on a chillé. Et on a vu que ça nous attire loin du Seigneur. Et le Seigneur me donne une impression. Ah, maintenant t'es vraiment loin de moi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais le Seigneur réagit dans notre conscience. Pour ça, je suis aussi mort. Je suis mort pour ta vaine manière de vivre. Je veux confesser mes péchés au Seigneur. Ça, c'est vraiment une bonne attitude. C'est bien de venir au Seigneur et de dire, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore confessé? Il s'agit pas de creuser, de faire une analyse psychologique, s'il vous plaît, non, mais il y a certaines choses, on sait, il y a un truc là derrière, dans mes reins. Ouais, quelque part, il y a quelque chose qui me pique quelque part. Mais et une fois que tu sais, enfin quand on sait le problème, bah il faut le confesser. Confesse-le. Cet après-midi, avant la table, que nous allons célébrer le Seigneur et son sang. Dis au Seigneur, ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Et aussi, confesse-le. Je veux confesser mes transgressions, mes péchés au Seigneur. Et qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David a fait après? Je ne sais pas combien il y a de temps entre le psaume 32 et le psaume 51, mais on connaît ce psaume 51 après que David a fait ce péché, ce grand péché chez Bathsheba, où il a laissé tuer un homme et il a écrit ensuite ce psaume 51. Quand le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, et ces versets m'ont préoccupé. Et avant que je vienne là-dessus, j'ai encore envie de dire quelque chose par rapport au verset 5 du psaume 32. J'aimerais confesser mes transgressions au Seigneur. Et dans ça peut aussi être traduit par rébellion. Je veux confesser ma rébellion. Oh, combien souvent je suis rebelle au Seigneur. Rébellion et confesse ta rébellion au Seigneur. Seigneur, je te loue que tu as aussi versé ton sang pour ma rébellion. Je peux merci parce que je peux la confesser à toi. Et ici, dans le verset 5, dans le chapitre 54, psaume 51, pardon. Lisons ensemble le psaume 51, 4 à 7. Psaume 51, 4 à 7.
Alors, chez nous, ça commence à partir du verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront.
Verset 9, purifie-moi avec l'hysope. Nous avons le sang de l'agneau. Et David était vraiment conscient de ses péchés. Et il a dit, oui, je reconnais mes transgressions. Je les reconnais. Pourquoi? Est-ce que c'est important pour le Seigneur? Parce qu'il désire que aussi dans la pratique nous rapprochons par son sang. Ouais, il s'agit de l'Église qu'il a rachetée. Mais comme moi, en tant qu'individu, je suis si léger avec le péché, eh ben je suis loin. Même si l'Église est proche, je ne peux pas, je peux en tant que croyant être loin du Seigneur, mais le Seigneur veut avoir une habitation de Dieu en esprit. C'est pour ça qu'il nous a rendus vivants. Et c'est pour ça qu'il a aussi fait un chemin pour que nous puissions revenir, nous rapprocher de lui. Il est fidèle. Il attend qu'on confesse et ensuite il est tout de suite là. Dans Luc 15, on voit cette parabole du père qui attend que son fils revienne. Et d'une manière surprenante, il n'en fait pas il le laisse confesser. Luc 15, verset 21.
Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Il attend que le fils dise ça et ensuite il attend que le fils dise ça, qu'il a péché et ensuite il l'interrompt et dit stop, stop, c'est bon, viens. Il a attendu. Il le voit de loin. Il a été pris de compassion. Quand on vient vers le Seigneur, le Seigneur est pris de compassion, mais il le laisse confesser. Père, j'ai péché. Apprends-le dans ton âge, dans ta jeunesse, à confesser. Apprends à confesser dans ton jeune âge. Quelques-uns ici sont fraîchement baptisés. Apprends-le rapidement à confesser. J'ai péché. J'aimerais revenir dans la communion avec toi. Père, je te remercie que tu as donné ton fils, que son sang a été répandu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et nous purifier de toute iniquité. C'est dans 1 Jean ça. 1 Jean 1,9. Et il le dit aussi dans l'Ancien Testament, si vos péchés, c'est le verset avec les péchés qui deviennent blancs comme la neige, qui sont lavés. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur a fait. Tout ce qui se tient dans cette phrase, être rapproché par le sang de Christ, c'est vraiment la base pour que nous puissions bâtir son habitation en esprit. Comme nous verrons ce soir que nous sommes un nouvel homme, que nous sommes un nouvel homme. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour son sang qui a été versé.